cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Mathieu et je suis également avec Robert Bourg par téléphone qui vont nous parler de France Tactical Gear et de Secourissime. Bonjour tous les deux, comment ça va?
Bonjour.
Bonjour, très bien.
Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Eh bien oui, bah, je vais commencer donc, puisque je suis le plus vieux. Je m'appelle Robert, j'ai 57 ans. Je suis le responsable de Secourissime. Secourissime, qui est une entreprise qui est dédiée à la formation aux premiers secours en montagne et aux milieux isolés. Voilà, bah, je passe la parole à Mathieu maintenant pour cette présentation.
Bonjour du coup tout le monde, merci pour l'invitation. Donc moi je suis responsable de France Tactical Gear à la Bresse et effectivement on fait aussi des formations, tout ce qui est formation en secourisme, dont le premier secours en montagne avec Robert, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession? Qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Ah ben, je vais reprendre la parole. Eh bien, moi, je suis formateur de premier secours en montagne et milieu isolé. C'est-à-dire que c'est une forme de secourisme qui est très orientée sur le premier secours, donc dans un milieu très particulier qui est la montagne, et par conséquent, les milieux isolés. Mon rôle, c'est de former des gens, donc des professionnels ou alors des non-professionnels, au premier secours. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites, vous et moi, lorsque nous sommes en balade en montagne et que nous sommes confrontés immédiatement à une situation de secours, à une personne qui serait blessée, qui ferait un malaise ou autre chose. En attendant l'arrivée des secours professionnels qui viendraient prendre le relais, en sachant que ces secours professionnels pourraient mettre potentiellement beaucoup de temps à arriver sur place, compte tenu de toutes les difficultés et notamment celui de passer une alerte qui pourrait être retardée parce qu'il n'y aurait pas de réseau téléphonique, parce qu'on n'arriverait pas très bien à se situer sur le terrain.
Et toi, Mathieu?
Du coup, en fait, c'est... Je suis aussi formateur en premier secours l'idée est venue suite au fait qu'il y a de plus en plus de monde qui fréquente le massif vosgien et tous les massifs en règle générale, de plus en plus de fréquentation et qui fait qu'il y a forcément il y a de plus en plus de soucis potentiellement d'accidents ou d'incidents et dans ce cadre nous pensions un partenariat correct avec Robert pour former les gens justement comme il disait juste avant au premier secours spécifiquement montagne car là, à cette heure-ci, il n'y a aucune structure qui le propose. Il y a énormément de formations, secourisme de type urbain, mais à aucun moment on peut trouver des formations orientées montagne pour toutes les personnes lambda ou professionnelles. Et du coup, voilà.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers ce domaine particulièrement?
Eh bien, ce qui m'a donné cette envie, elle vient de très loin. Du coup, moi, en ayant 57 ans, j'ai déjà une vie professionnelle derrière moi. Et à l'origine, j'ai commencé en étant chasseur alpin, je faisais mon service militaire en Savoie, où j'habite d'ailleurs toujours. Et par la suite, je suis rentré en gendarmerie, où j'ai servi durant une quinzaine d'années dans les unités de haute montagne de la gendarmerie, et j'ai participé, bien entendu, à des secours dans ce milieu très particulier. L'idée de proposer ces activités de premier secours, de formation de premier secours en montagne aujourd'hui, eh bien, elle est venue naturellement du fait de mon expérience et de mon désir de partage de mon expérience professionnelle, mais aussi dans le milieu associatif, puisque je suis initiateur dans plusieurs disciplines au sein du club alpin français et de manière à ce que les gens puissent à leur tour bien en bénéficier pour qu'ils sachent agir dans les meilleures conditions lorsqu'ils sont confrontés à des situations d'accident qui sont fortement déstabilisantes sur le plan émotionnel. On parle de stress émotionnel et à ces moments-là, il faut avoir acquis des mécanismes qui vont nous permettre de passer par-dessus cette situation de stress émotionnel pour agir de manière pertinente pour gérer ces situations d'accident et transmettre ensuite le flambeau aux secours professionnels qui vont arriver potentiellement beaucoup plus tard que s'il s'agissait d'un accident dans une zone urbaine.
Alors moi, la formation, effectivement, c'est tout ce qui concerne la transmission de savoir qui me semble essentiel. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, j'ai un enfant de 10 ans, et cet enfant de 10 ans m'a donné l'envie de pouvoir transmettre. Alors, transmettre des valeurs, mais transmettre aussi du savoir et des compétences, parce que ça me semble super important, et c'est dans l'esprit... j'ai envie de dire familial presque, cordial, enfin au-delà de ça. Et j'ai une passion révélée pour le secourisme depuis mes 16 ans, où j'étais pompier volontaire, j'ai enchaîné les formations pisteur secouriste, accompagnateur moyen de montagne et tout ça. Et tout ça... plus mes parents qui m'ont élevé toujours en montagne et depuis mes 1 an. Donc ça fait 40 ans que je suis dans les montagnes. Et le milieu est essentiel pour l'expérience dans le milieu est essentielle pour ces formations en premier secours montagne qui sont adaptés, quoi. Enfin, ça me semble essentiel, voilà.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ce que vous faites ?
Alors, moi, ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est le côté humain. C'est de savoir qu'on va transmettre quelque chose qui touche à l'altruisme, c'est-à-dire le don de soi, l'envie de la bienveillance, voilà. C'est d'agir pour pour l'autre. De transmettre des valeurs, des savoirs. Je pense que ouais, voilà, je vais arrêter là parce que c'est vraiment l'essentiel de ce qui me conduit, de ce qui me motive, de ce qui me porte.
Et toi ?
Bah, à peu près, c'est pareil. C'est vraiment cette idée de transmission de savoir qui est que tout le monde devrait avoir au niveau au niveau montagne et au niveau milieu isolé, au niveau parce que enfin voilà, après c'est bien de ouais, c'est ça. C'est vraiment tout le côté transmission de savoir.
Est-ce que vous pouvez nous parler de France Tactical Gear et de Secourissime ?
Alors moi, je vais vous parler de Secourissime. Secourissime, c'est une micro-entreprise. En fait, je travaille en nom propre. Et donc, je propose des formations qui sont ouvertes à tout public. C'est-à-dire autant des professionnels qu'on a formé d'ailleurs avec Mathieu il y a quelques jours. Jeudi, vendredi, la semaine dernière, on avait des accompagnateurs en montagne qui ont participé à une formation sur 2 jours. Dans le massif du Beauportin, donc en Savoie, sous l'égide du centre de formation des accompagnateurs en montagne de Chambéry. Et ensuite, on a eu ce week-end des citoyens lambda qui font partie du club alpin français, donc des montagnards, des randonnées, etc. Parmi eux, il y avait bien entendu aussi des encadrants. Et donc, le rôle de Secourissime, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de transmettre un savoir, des techniques qui vont permettre à ces personnes d'avoir des outils qui vont leur permettre d'agir de manière pertinente et adaptée si un accident venait à se produire en montagne.
Alors concernant France Tactical Gear, on est ouvert depuis 2018. On a démarré sur tout ce qui était découverte nature, pour ne pas dire stage de survie, avec la connotation et les amalgames qui sont faits dessus. Donc vraiment tout ce qui est découverte nature pour enfants, adolescents, famille ou amis. On a enchaîné avec en développement sur les formations en secourisme, on va dire tactique. Et là, on est parti sur du centre de formation. En fait, on évolue encore et on part sur du centre de formation SST et pour agrémenter le tout, vu qu'on est à la Bresse, on fait une partie secours en montagne, en fait. Premier secours en montagne, pour être exact, et d'où ce partenariat avec Robert.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble, tous les deux ?
La barbe.
En effet, oui, c'est un point commun, la barbe, mais c'est pas ça exactement qui nous a motivé à travailler ensemble. Je pense que la parole revient surtout à Mathieu, puisque c'est lui qui m'a contacté, donc je lui fais la parole.
Alors, ça faisait longtemps que j'ai un projet à long terme, à vouloir monter une équipe de secours montagne sur la Bresse, d'ordre associatif, et n'ayant pas réussi, n'ayant pas trouvé de solution légale pour monter cette équipe, pendant mes recherches, j'ai cherché beaucoup de personnes, des personnes avec des compétences spécifiques montagne, et je suis tombé sur Robert, et sans me faire mal d'ailleurs, et on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, on fait tous les deux partie des gens qui ont une idée toutes les trois secondes, trois idées toutes les secondes, excusez-moi, c'est à peu près pareil. Et on s'entend beaucoup, on s'entend très bien d'ailleurs. On arrive à avancer, à faire les choses et à être très complémentaires. Et entre lui, son expérience et la mienne. Et voilà, si tu me diras le contraire, peut-être le contraire, Robert, non, je sais pas.
Non, très bien. En fait, Mathieu m'a contacté parce qu'il avait ce projet. Et il s'est tourné vers moi pour que je puisse le former en soi, en tant que stagiaire sur mes compétences. Et bien sûr, c'est un plaisir d'avoir pu répondre à ta demande. Parce que ça fait partie aussi de mon ADN de transmettre aussi de former d'autres formateurs à cette discipline particulière.
Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de secourisme. On vous laisse avec Larry Fleet avec son titre When I Found God. Je crois qu'il faut que je continue l'anglais. À tout de suite sur Radio Gémozo.
I hit rock bottom, sitting on an old bar stool. He paid my tab and put me in a cab, but he didn't have to. He could see I was hurting. Oh, I wish I'd got his name, 'cause I didn't feel worth saving. But he saved me just the same. And day out on the water, when the fish just wouldn't bite, I put my pole down and floated around. It was just so quiet, and I could hear my old man saying, "Son, just be still." Bottle or a pill. From the bar stool to that living room, Sunday morning. like a hymn to me. No, I ain't too good at praying, but thanks for everything.
Retour sur les ondes de RGM avec Mathieu et Robert. C'est quoi la différence entre le secourisme urbain et le secourisme en lieu isolé?
Alors oui, effectivement, c'est très intéressant d'en parler parce que c'est un milieu, le milieu de la montagne et des milieux isolés est tout à fait particulier. Lorsque vous êtes, on va donner un exemple concret, lorsque vous êtes en ville et qu'il se passe un incident, eh bien, vous pouvez appeler les secours qui vont intervenir généralement très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire très rapidement? C'est 10 minutes, un quart d'heure après. La grande différence justement dans le milieu montagne et le milieu isolé, c'est que les secours professionnels, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers ou les gendarmes des pelotons de montagne, suivant la situation météo, suivant l'isolement, est-ce qu'on a réussi à déterminer très précisément l'endroit où on se trouve, eh bien, ces secours professionnels qui vont arriver en seconde main vont mettre beaucoup, beaucoup plus de temps à arriver et potentiellement, ça va durer des heures. Et c'est donc la raison pour laquelle la formation au premier secours en montagne est si importante pour les pratiquants des sports de montagne, car elle détermine considérablement la limitation de l'aggravation de l'état d'une victime par la prise en charge en première main par tout citoyen qui pratique les sports de montagne.
Moi, j'avais une question au niveau du secourisme, c'est parce que, en fait, les Vosges, on est une zone à risque au niveau des séismes. Qu'est-ce qu'on doit faire si, par exemple, on est en haute montagne et qu'il y a une petite secousse?
En montagne, si on parle de haute montagne, on va parler des Alpes, donc en montagne, pour ce qui concerne les Vosges, bah, manifestement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est d'attendre que la secousse passe, parce que, de toute façon, il n'y aura certainement pas d'incidence de ce point de vue-là. Il vaut mieux être en montagne lorsqu'il se produit un séisme qu'en ville, parce qu'on risque moins qu'un immeuble nous tombe dessus.
Et qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'orage?
Alors, en cas d'orage, eh bien, il vaut mieux trouver un abri. Soit un refuge, un abri, se mettre, comment dire, éviter les crêtes, par exemple, les sommets, éviter les arbres isolés. En forêt, on aura moins de risques, hein, parce que en forêt, voilà, c'est tous les arbres qui seront autour vont faire une espèce de canopée, donc l'orage ne choisira pas le poil plus haut comme s'il s'agissait d'un arbre isolé. On va éviter les cours d'eau, par exemple, qui sont très conducteurs. Voilà, donc dans l'idéal, c'est déjà au départ de s'informer de la météo et d'éviter de partir en montagne s'il y a un orage. Et si on est pris par hasard sur un orage, eh bien c'est de trouver un abri.
Est-ce que c'est vrai qu'il faut pas bouger une personne blessée?
Alors, plutôt oui, la réponse serait plutôt oui, il faut éviter de mobiliser, on parle de mobilisation, une personne qui est blessée. Parce que d'abord il n'y a pas trop de raison de la mobiliser. Il faut d'abord procéder à un examen de cette personne. L'examen, il passe par les questionnements qu'on peut avoir sur cette personne qui va nous répondre hein, potentiellement, nous dire ben voilà, moi je me suis tordu la cheville, ok, d'accord, mais est-ce que tu peux marcher? Oui, mais c'est difficile, voilà. Donc c'est elle-même qui va se mobiliser, c'est pas nous qui allons le faire. Après, eh bien, on peut avoir affaire à une personne qui n'est pas consciente. Du coup, si à la suite d'une chute, elle s'est cognée la tête, eh bien, elle sera peut-être inconsciente, mais il va falloir déterminer cette situation. Est-ce que la personne est vraiment inconsciente? Pour ça, il y a des gestes précis à faire. Donc oui, on va éviter évidemment de mobiliser la personne parce que on risque d'aggraver son état et c'est l'inverse que l'on va rechercher. Voilà.
Je veux juste rajouter une chose. Normalement, on n'est pas censé la mobiliser effectivement la personne, comme disait Robert, sauf en cas
d'extrême urgence, la vie de la personne est en danger.
C'est ça, et ça c'est super important de le savoir, puisque en fait tout ce qui est dégagement d'urgence, c'est vraiment dans une situation particulière, et voilà.
Comment on peut adopter les bons gestes et ne pas céder à la panique quand il y a personne aux alentours, par exemple si on a un téléphone qui ne capte pas?
Déjà, c'est suivre une formation. Voilà, c'est justement à l'occasion de ces formations que on va apprendre ces techniques particulières. S'il y a personne autour, on va déjà s'intéresser à l'examen, c'est-à-dire analyser les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on va alerter les secours. Alors, il me semble que votre question, c'était aussi, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de réseau, c'est ça ou pas, ou je me trompe?
Oui, c'est ça.
Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de réseau téléphonique? Une des priorités absolues, c'est de passer l'alerte au secours professionnel pour qu'il puisse prendre le relais, parce que vous comprenez bien que nous, avec notre sac à dos, on n'est pas équipé comme un hôpital. Donc, on sera le premier maillon de la chaîne des secours. Et quand on parle de chaîne, il y a plusieurs maillons. Le second maillon de la chaîne des secours, eh bien, c'est les secours professionnels, c'est-à-dire les pompiers, les gendarmes du PGHM, qui vont pouvoir intervenir avec des moyens beaucoup plus importants pour ensuite emmener cette victime vers le troisième maillon de la chaîne des secours, qui seront eh bien les urgences à l'hôpital et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de réseau téléphonique pour passer l'alerte rapidement? Eh bien, c'est ce que l'on enseigne justement à l'occasion de nos formations. Eh bien, par exemple, c'est tout simplement d'utiliser notre voix, d'appeler au secours. Peut-être que d'autres personnes vont pouvoir nous venir en aide. Et si, avec les appels au secours par la voix, personne n'arrive, eh bien, on va utiliser un sifflet à roulette qui fait beaucoup de bruit. Et en général, lorsqu'on entend sonner un sifflet en montagne, eh bien, c'est pour un appel au secours, parce que les montagnards sont généralement informés de cela. Et si là, encore une fois, il n'y a personne qui arrive, eh bien, on va envoyer des messagers. C'est-à-dire, on a de la ressource parce qu'on est en groupe, et bien on va mandater deux personnes pour aller chercher les secours, chercher un réseau téléphonique. Et là, au pire du pire, c'est-à-dire qu'on est seul avec la victime, et bien on va y aller soi-même hein, parce qu'on n'aura pas le choix.
Qu'est-ce qu'on doit faire face à une personne qui est gravement blessée, par exemple, si elle s'est entaillée le bras lors d'une chute?
Alors, si elle s'est entaillée le bras à l'occasion d'une chute, on va supposer que cette personne, elle subit une hémorragie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hémorragie? Eh bien, c'est un saignement important qui ne s'arrête pas spontanément. Donc, si on n'agit pas directement sur ce saignement, la personne va se vider de son sang et forcément, elle va décéder. Donc, il est très important de stopper cette hémorragie avec les moyens qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a comme moyen avec nous? Eh bien, on a nos mains. On a tout simplement nos mains avec lesquelles on va effectuer une compression manuelle sur la plaie directement. Et ensuite, eh bien, à l'aide de la trousse de secours que l'on aura bien entendu pris soin d'emporter avec nous, on va utiliser un pansement compressif. Et au pire, parce qu'on n'arrive pas à stopper l'hémorragie avec la main, eh bien, on utilisera un garrot.
Et un garrot, c'est par exemple un vêtement qu'on peut lacérer et qu'on serre autour du bras, c'est ça?
Alors, je peux répondre?
Oui. Oui, vas-y, Mathieu, réponds, je t'avais oublié.
Non, t'inquiète, y a pas de souci. le garrot, pour reprendre le vêtement, en fait, dans les référentiels, c'est marqué qu'il faut que ce soit un lien minimum de 1m50 sur 2,5 cm. Et que ce soit pas élastique. Donc un morceau de sangle, d'autres choses essentielles avec un bâton ou avec quelque chose de solide pour pouvoir tourner correctement et faire les choses concrètement. Voilà.
Oui, en effet, bon, voilà, il y a des techniques de fortune que l'on peut mettre en œuvre, mais c'est relativement difficile. Mais d'ailleurs, dans nos formations, on propose quand même aux personnes qui sont impliquées justement dans les premiers secours, eh bien, de s'équiper d'un garrot industriel qu'on appelle, que l'on trouve sur Internet, et qui est beaucoup plus efficace.
Qu'on appelle le garrot tourniquet, justement, et voilà. Vous pouvez en trouver sur francetacticalgear.com.
C'est quoi la position latérale de sécurité?
Ah, très intéressant. La position latérale de sécurité, ce terme que j'adore et qui est tellement compliqué et qui nous retourne le cerveau tout le temps et qui est complètement inutile. Je vais vous dire directement qu'est-ce que c'est qu'une position latérale de sécurité. C'est de mettre la personne sur le côté, tout simplement. C'est de mettre la personne sur le côté.
Pourquoi cette position est la plus utilisée pour porter secours à quelqu'un?
En fait, pourquoi est-ce qu'on va mettre une personne sur le côté? Eh bien, déjà, après l'examen que l'on aura fait sur cette personne, on l'aura interrogé. Eh oh, tu m'entends? Comment ça va? Ah, elle ne répond pas. Tiens, c'est étonnant. Mais si tu m'entends, serre-moi les mains, parce qu'on lui tient les mains. Est-ce que tu peux cligner des yeux? Donc la personne ne répond pas, ne serre pas les mains, ne cligne pas des yeux. On va contrôler ensuite sa respiration. Et pour ça, on va s'approcher d'elle, tout simplement avec notre visage. On va observer si son abdomen et son thorax s'élèvent. On va sentir peut-être son souffle sur notre joue. Et là, si on constate que la personne, elle respire normalement, eh bien, on va la mettre sur le côté. Donc, cette fameuse position latérale de sécurité, ce terme si compliqué. Et cette position-là, elle a pour but, eh bien, que la personne, elle puisse évacuer naturellement ses liquides corporels, donc les liquides gastriques ou éventuellement la salive. Parce que la personne qui se trouve dans cette situation d'inconscience, eh bien, l'inconscience, c'est pas une personne qui dort. Quand on dort, on a encore le réflexe de déglutition. Par exemple, on va pas avoir à vomir. Tandis qu'une personne qui est inconsciente, elle n'a plus du tout tous ses réflexes, et c'est la raison pour laquelle elle risque donc de libérer ses liquides corporels qui risquent de partir dans les poumons, et donc la personne risque de s'étouffer si elle reste sur le dos.
Comment est-ce qu'on peut aider une personne qui fait un arrêt cardiaque sans défibrillateur?
Alors, je pense que là-dessus, on peut partir sur... après avoir détecté qu'il n'y ait pas de ventilation, donc ni de soulèvement de la poitrine, ni d'air qui passe, ni entendu, puisqu'on met la tête, après une libération des voies aériennes, on met la tête au-dessus pour vérifier tout ça. Et au bout de 10 secondes, s'il n'y a rien, eh ben, on enchaîne un massage cardiaque. Sur ce massage, on est sur 30 compressions thoraciques et deux insufflations. À savoir que les deux insufflations ne sont pas obligatoires, ne sont plus obligatoires depuis le Covid. Du coup, voilà.
Pour reprendre la parole après Mathieu, effectivement, si on n'a pas de défibrillateur à côté de nous, on va prendre le relais du cœur, hein, c'est-à-dire que l'on aura, alors, au préalable, une fois qu'on aura fait notre examen de la conscience que j'ai développé tout à l'heure, donc on va constater à ce moment-là que la personne ne respire pas. Et ça, ce sera l'indicateur ultime pour considérer que la personne est en arrêt cardiaque. La personne qui ne respire pas, elle est forcément en arrêt cardiaque. Donc, tout de suite... on va procéder à un massage cardiaque, c'est-à-dire qu'on va effectuer des compressions au niveau du thorax pour remplacer le mouvement du cœur. On va automatiquement passer l'alerte, si c'est possible, Et donc, on va demander un défibrillateur. Donc, OK, il n'y a pas de défibrillateur. Eh bien, on poursuit le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. L'objectif du massage cardiaque, c'est d'apporter de l'oxygène vers le cerveau. C'est-à-dire que en faisant ce mouvement cardiaque artificiel par l'effet des compressions thoraciques, eh bien, on va envoyer du sang vers les poumons qui va se charger en oxygène et ensuite délivrer ce même oxygène au cerveau. Alors, s'agissant du défibrillateur, il faut savoir qu'il ne sert que pour l'analyse du rythme cardiaque et donc la fibrillation ventriculaire qui est une des causes de l'arrêt cardiaque. C'est que le cœur a encore une activité électrique, mais qu'elle est anarchique. Et l'objectif du défibrillateur, c'est de remettre le cœur à l'arrêt pour qu'il reparte ensuite sur un mouvement normal. Voilà l'objectif du défibrillateur. Et pour finir et répondre à votre question, je me répète, on n'a pas de défibrillateur, on fait un massage cardiaque.
Et pour le massage cardiaque, on peut le faire pendant combien de temps ?
Ah ben ça dépend dans combien de temps les secours arrivent en fait. Et à partir du moment où on commence un massage, seul un médecin peut vous demander d'arrêter le massage ou alors vous passez le relais à quelqu'un d'autre si vous êtes fatigué, ce qui est possible aussi. Mais c'est comme le défibrillateur, c'est seul un médecin peut dire on arrête en fait. Donc voilà. Et une fois qu'on a commencé, on continue et on s'arrête pas quoi.
Combien de temps est-ce qu'il faut en moyenne au secours professionnel pour relayer les secours que vous pouvez apporter, vous ?
Alors, spécifiquement en montagne, c'est que les secours vont potentiellement mettre beaucoup de temps pour arriver sur place parce qu'on se trouve dans un milieu isolé. On n'est pas accessible comme en ville ou sur la route rapidement par les services de secours professionnels. C'est très variable. Si on estime que l'on se trouve, par exemple, à Chamonix, où on est à la Mecque de l'alpinisme, et qu'il fait grand beau, que l'hélicoptère est disponible, il peut arriver au sommet du Mont Blanc en moins de 5 minutes. Alors que si vous vous trouvez, je dirais n'importe quoi, dans le Queyras, qui est dans les Alpes du Sud, il n'y aura pas ces moyens de secours-là, et que c'est les pompiers qui vont devoir se hisser à 3000 mètres d'altitude, ils vont mettre jusqu'à 6 heures pour arriver sur place. Mais il faut plus compter quelques heures que quelques minutes. Ouais.
Est-ce que vous recommandez aux randonneurs de toujours avoir des trousses de secours dans leur sac ?
Alors oui, ça fait partie de la formation qu'on propose avec Robert, c'est d'avoir une trousse de secours, une vraie trousse de secours avec des outils qui suivent le protocole qu'on propose lors de la formation, justement. C'est même la base, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment la base, ouais.
Oui, absolument. Moi, je rejoins complètement Mathieu dans ce domaine. C'est-à-dire que la trousse de secours, elle devrait faire partie intégrante du fond du sac et ne jamais en sortir, sauf pour être utilisée à l'occasion d'un secours. Alors, la trousse de secours, nous, on en a une toute particulière avec des outils que l'on propose, des outils spécifiques que l'on propose. Hein. Par exemple, je vais prendre le cas des ciseaux, pour découper un vêtement, pour découper une sangle de sac à dos, c'est pas les petits ciseaux pointus ou à bourron qu'on connaît pour découper des pansements, quoi. Ça, c'est de la bobologie, nous on propose d'autres équipements. Mais oui, la trousse de secours doit faire partie intégrante du fond du sac et systématiquement à chaque randonnée.
Est-ce que, par exemple, on peut mettre la couverture dorée dans le sac ? Je sais plus à quoi ça sert, c'est chauffant, non ? C'est ça ?
Alors la couverture de survie, elle est dorée d'un côté, elle est argentée de l'autre. Alors le côté argenté, c'est pour envoyer les rayons de la chaleur pour faire comme un miroir en fait, pour faire un effet miroir. Par contre, cette couverture de survie, elle ne chauffe pas. C'est uniquement le renvoi de la chaleur du corps puisque on rayonne de la chaleur, et c'est ce rayonnement de chaleur qui est renvoyé vers la victime, en fait. Robert, ouais, si, c'est,
oui.
Ouais,
si. Ouais, je vais prendre le relais, oui. En effet, donc la couverture de survie, elle a cette partie argentée qui va renvoyer la chaleur vers la personne. Il ne faut en aucun cas supposer qu'on va réchauffer la personne. On va limiter le refroidissement. Et donc, ça, c'est absolument impératif. Ça fait partie des choses qui tuent. Hein. Si une personne se refroidit, elle va sombrer en hypothermie. Et l'hypothermie, ça ne s'arrête pas. Et ça fait partie des choses comme l'hémorragie, c'est fait partie des choses qui tuent. Et ça, on apprend vraiment à se servir de cet objet qui est très léger et qui doit faire partie de la trousse de secours. On apprend vraiment aux personnes participantes à nos formations de s'en servir de la manière la plus efficace.
On va maintenant parler de formation. C'est quoi le PSC1?
Ouais. Alors, on est tous formateurs premier secours civique de niveau 1, en sachant qu'il n'y a pas de niveau 2. C'est une formation qui se déroule en salle pour les fondamentaux du secourisme en milieu urbain. Enfin, en milieu pas isolé, en fait. Vraiment, là où les secours, on décroche, ils sont là dans les 10-15 minutes, quoi. Comme les pompiers, comme... voilà. C'est vraiment spécifique à la vie de tous les jours en zone urbaine, voilà.
Oui, en effet, c'est la formation de base. C'est-à-dire celle au cours de laquelle on va acquérir des savoirs simples qui vont nous permettre de réagir efficacement à une situation d'accident qui peut se produire dans un milieu domestique, chez soi par exemple, ou en ville. Nos formations, elles sont beaucoup plus étoffées et adaptées au milieu montagne. Voilà, ça c'est la différence.
Est-ce que vous pouvez nous parler des formations que vous proposez ?
Oui, bien sûr, on va parler des formations que l'on propose parce qu'elles sont, je me répète, complètement adaptées à ce milieu tout particulier qui est la montagne. On suit trait pour trait le référentiel du secourisme national, mais que l'on adapte au milieu. Comme je l'évoquais tout à l'heure concernant l'alerte, en ville, on va pas trop se poser la question. On a la 5G, téléphone portable, etc. Et bien sûr, ça passe partout. Donc, au niveau de l'alerte, ça va être très simple. Et rien que pour cet exemple-là, on l'a vu tout à l'heure, en montagne, c'est très particulier. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de réseau téléphonique ? Eh bien, on trouve d'autres solutions. Et ces solutions-là, nous les connaissons et nous les partageons pour que les gens puissent avoir des outils qui vont leur permettre de réagir efficacement à une situation d'accident, mais qui ne se produit pas dans une zone urbaine. Voilà, donc ça c'est l'essence même de nos formations. Je vais utiliser un mot, c'est l'adaptation.
Et combien de temps elles durent, les formations ?
Alors nos formations, elles durent généralement 2 jours. D'ailleurs, on en propose une le dernier week-end du mois d'octobre, 28-29 octobre, dans la commune de Ventron et plus précisément au sommet du Grand Ventron.
Et combien de personnes est-ce qu'il peut y avoir par session de formation au maximum ?
Mathieu.
Alors, on est sur 10 personnes par instructeur. Du coup, on sera deux le 28-29 octobre prochain. Et du coup, on prend jusque 20 personnes.
Est-ce qu'il faut réserver ?
Alors, ce serait bien de réserver, effectivement, puisque déjà, nous, pour savoir où c'est qu'on va, et pour une question de logistique et d'organisation.
Oui, il faut réserver. On a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites, mais il reste encore quelques places. Et il serait bien pour tout le monde hein, qu'on puisse participer à ça, à cette formation. Et si par aventure des personnes étaient intéressées, que la formation était pleine, on va proposer d'autres dates, bien sûr.
Et est-ce que ces formations sont payantes ?
Oui. Alors, oui, effectivement, c'est payant, puisque nous, derrière, on paye le refuge, on paye, il faut payer les hommes aussi, et enfin, voilà, normal.
Oui, on a du matériel aussi. Hein,
aussi.
On utilise pas mal de matériel de simulation à l'occasion de nos formations. Eh bien, ce matériel, c'est nous qui l'avons acheté. Hein, bien sûr, on vit en entreprise aussi. Comme dit Mathieu, il faut que on nourrisse l'homme. Et puis qu'on rachète régulièrement du matériel. Parmi ce matériel, il y a des mannequins de simulation et d'exercice que l'on emploie, des consommables, si ce sont des bandes de gaz, des bandes élastiques, etc., pour simuler les bandages etc. Donc oui, nos formations sont payantes.
D'accord. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Zach Brown Bands et Imagine Dragons. Et on se retrouvera juste après sur le 107.
Travel all across this land, just me and you. We'll end up hand in hand somewhere down on the sand, just me and you. Just as free. City lights dissolve into a country sky, just me and you. Lay underneath the harvest moon, do all the things that lovers do, just me and you. Heart now.
cry. You smell the sea and you feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. When the foghorn blows, I'll be coming home. When the foghorn blows, I wanna feel it. Don't have to fear it, 'cause I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old, together we will flow. Out of the mist, this land.
Me and you. 107.0
RGF
Radio
Gemozo,
ta radio locale préférée.
Days pass by and my eyes stay dry, and I think that I'm okay. Till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost.
Sometimes I wish that I could wish it all away. Reminds me of you and it comes in waves. The way you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost.
Sometimes I wish that I could wish it all away.
Oh, I'm a wreck
these days when I'm on the brink of the edge. I remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, I'll suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.
Sur les ondes de RGM avec Mathieu et Robert. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site streaming.radiogemozo.eu/live ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous pouvez également nous écouter localement en branchant votre transistor ou votre autoradio sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux?
Je crois que le choix musical, je l'ai imposé à Mathieu. Et moi j'adore la musique country, donc voilà, tout simplement, c'est relaxant. Voilà.
Et par respect aux anciens, effectivement, je l'ai laissé choisir les trois morceaux.
Alors c'est quoi l'actualité de France Tactical Gear et de Secourissime?
Eh ben nos activités communes, déjà il y a le 28-29 octobre du coup, ensemble pour le premier secours montagne à Ventron, qui est du coup une formation sur deux jours que l'on propose avec Robert sur le massif vosgien, puisque on la propose, voilà. Robert.
Oui, effectivement, c'est la première formation qu'on va proposer sur le massif vosgien, mais puisque moi j'habite dans les Alpes, en Savoie, eh bien c'est sur la demande, la proposition de Mathieu que j'ai décidé, de me rendre par chez vous, dans ce joli petit massif vallonné des Vosges, qui présente de belles caractéristiques des milieux isolés, et surtout qu'il est très fréquenté. Il y a énormément de sentiers de randonnée qui sont utilisés par autant les piétons, les randonnées pédestres, que par les vététistes, etc., les parapentistes aussi, hein. Et donc il y a aussi de la grimpe qui se fait du côté des crêtes, vers le Markstein, vers le Honeck. Donc des activités très variées, comme le ski de fond aussi pour l'hiver et le ski alpin. Donc ça répond complètement à un besoin, à une demande aussi, parce que n'oublions pas que pour l'instant, si se produit une situation d'accident, c'est le peloton de gendarmerie de Haut-Rhône dans le département du Haut-Rhin, ou alors que son Rue-Longemer pour ce qui concerne le département des Vosges, qui va intervenir. Mais nous, ce que l'on veut, c'est former des gens, c'est le citoyen lambda qui, lui, pratique ses activités de montagne, soit en mesure et en capacité, de prodiguer les premiers soins, ceux que l'on a évoqués tout à l'heure. Voilà.
Je rajoute un détail, c'est que depuis un petit bout de temps, c'est moitié les pompiers du secours montagne et moitié le peloton de gendarmerie qui intervient effectivement en fonction des semaines qu'ils ont de garde chacun. Voilà. juste pour le petit détail. Après, effectivement, on propose ça puisqu'il y a une réelle demande et le fait que les gens viennent de plus en plus sur le massif fait aussi que, comme je disais au début, on se retrouve de plus en plus dans des situations d'incidents ou d'accidents. Voilà, et qu'il faut y répondre. Voilà.
Par la formation.
Par la formation, effectivement, puisque il faut former, il faut se former, il faut pas hésiter à se former, au contraire, voilà, et recommencer et se recycler quand on est déjà formé. Et c'est pas parce qu'on a des formations de secours, dirons-nous, urbains comme PSC1 ou PSE que forcément on a les bons réflexes pour la formation pour gérer un accident en montagne. Qui est une zone complètement différente et les choses complètement différentes de ce qu'on peut trouver habituellement.
Et qui pourrait participer le 28 et le 29? Est-ce que ça peut être les ados, les adultes, les personnes âgées?
Alors, les ados, on va dire qu'on prend les personnes globalement à partir de 16 ans. Ensuite, les personnes âgées, bien sûr, puisqu'il y a une énorme fréquentation des personnes âgées sur le massif vosgien. Et donc forcément, des personnes, un public à risque, un public à risque parce que peut-être plus sujet à des malaises que d'autres. Et donc c'est ouvert à tout public, en fait, en termes d'âge, voilà, de 16 ans jusqu'à 100 ans, et même au-delà, moi j'exagère peut-être. Mais non, de ce point de vue-là, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de restriction. S'agissant plus précisément des prérequis, eh bien il n'y en a pas non plus. Si vous pratiquez les sports de montagne, que ce soit la randonnée, le ski de fond, la raquette, l'escalade, etc., eh bien vous serez les bienvenus pour vous former. Il n'y a pas de prérequis.
Et quels sont vos futurs projets à tous les deux?
Alors, on est en train de réfléchir pour mettre une formation dite neige. Donc, la particularité de Secourissime, c'est que Robert a élaboré une formation de secours en avalanche, mais aussi poursuivre en deuxième partie, du coup, secours à l'avalanché. Deux choses complètement différentes, puisque en fait le secours en avalanche, eh ben c'est une grosse partie, c'est tout ce qui est recherche, en fait, avec le triptyque pelle sonde Arva. Excusez-moi, Arva, c'est une marque détecteur de victimes en avalanche, voilà. La partie d'après, c'est vraiment le secourisme pur sur la personne une fois qu'elle est sortie, une fois qu'elle est trouvée, et c'est bien spécifique.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pour finir avec nos projets, justement, il y a ces travaux sur le milieu hivernal qui a ses particularités aussi, et notamment s'agissant de l'hypothermie, c'est-à-dire le refroidissement du corps, dont on parle beaucoup. Et ensuite, oui, effectivement, pour la partie avalancheuse, nous n'oublions pas que les Vosges sont, malgré la faible altitude, les Vosges est un massif, enfin, le massif vosgien, on risque aussi les avalanches, et d'ailleurs tous les ans il y en a, notamment du côté des crêtes, côté alsacien, où il y a des gens qui pratiquent le ski de randonnée, la raquette et aussi l'alpinisme. Il y a bien aussi des gens qui vont pratiquer l'alpinisme à cet endroit, et donc il y a régulièrement des avalanches qui se produisent, et puis de temps en temps des personnes qui sont ensevelies. Et donc on va travailler spécifiquement sur ce type de formation qui, encore une fois, est ouvert à tout public, ainsi qu'aux professionnels.
Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux?
Alors moi, plus précisément sur les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas encore, à l'heure qu'il est, de site Internet. Moi, je vous invite à me rejoindre sur un groupe que j'ai créé il y a bientôt 2 ans et qui compte actuellement déjà 3400 followers, ce qui est, je trouve, pas mal du tout. Alors, sur cette page, elle s'appelle « Formation, secours en montagne et milieu isolé ». C'est un groupe sur lequel on retrouve pas mal d'informations. Mes publications sont généralement orientées sur des thèmes du secourisme en montagne. Par exemple, je vais traiter de l'hypothermie, je vais traiter de l'alerte en conditions dégradées, si on n'a pas de réseau, etc. Donc on va développer sur ces sujets-là. et puis aussi bien sûr communiquer sur nos formations. Et d'ailleurs, la dernière publication que j'ai réalisée, c'était hier soir, sur une formation qui a eu lieu ce week-end avec les professionnels de la montagne, que sont les accompagnateurs en montagne, ces fameux guides qui sillonnent le massif vosgien et qui emmènent les gens en montagne. Voilà.
Du coup, pour France Tactical, Gear, effectivement, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, donc Facebook, Instagram et différents autres. Et sur un site internet, du coup, il y a deux sites internet. Il y a le magasin en ligne qui est francetacticalgear.com et pour le site vitrine qui est survie.francetacticalgear.com. Et il est en train d'être mis à jour au fur et à mesure où on va parler aussi des formations en premier secours montagne en plus de tout ce qu'il y a déjà. Voilà. Et pour la formation du coup du 28-29 octobre, je reviens dessus, vous pouvez prendre contact au 06 31 08 68 47 ou envoyer un mail à francetacticalgear@orange.fr pour pouvoir vous inscrire et on vous enverra de la documentation aussi sur ce qu'il faut et les différentes questions que vous pouvez vous poser pour cette formation. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux ?
Harvey qui dirait Robert.
Oui, bah, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que, eh bien, nos formations se développent, hein, qu'on en ait de plus en plus, et qu'on puisse aussi, à notre tour, former d'autres formateurs à cette discipline tout à fait particulière et qui est encore très confidentielle, puisque à ma connaissance, actuellement, nous sommes en France deux formateurs de premier secours en montagne, Guillaume Fustier, qui est mon camarade, avec lequel j'ai d'ailleurs travaillé le week-end passé. Et puis voilà, c'est aussi bientôt Mathieu, hein, qui est en stage de formation de formateur de premier secours en montagne. Donc ouais, ce qu'on peut nous souhaiter, bah, c'est de se développer. C'est de développer nos entreprises, d'avoir de plus en plus de personnes qui s'interrogent et qui s'intéressent à ces formations et que l'on puisse aussi former à notre tour d'autres formateurs.
Cette émission est maintenant terminée. Mathieu et Robert, merci d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Merci d'être venu.
Oui, merci pour l'invitation. Merci beaucoup.
J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie, que l'on gardera contact avec tous les événements que vous avez prévus par la suite.
Eh bien, ce sera un grand plaisir de
vous retrouver. C'est prévu, sans souci.
Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde!